Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tout l'été pour le magazine de la photographie Regardez voir, le samedi et le dimanche de 14h à 15h. Je vous donne le programme. Le samedi, je reçois des photographes. Le dimanche, je vous raconte l'histoire de photos mythiques, celles que l'on voit juste en disant leur nom. Un exemple, le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Cette émission du dimanche est en partenariat avec le magazine Fisheye et l'histoire de chaque photo sera prolongée avec l'éclairage d'un invité. Cet après-midi, je vous propose de rencontrer une grande photographe. Elle est née à New York, elle vit en France depuis 1971. Elle fait partie de l'agence Vue, elle s'appelle Jane Evelyn Atwood. Elle est l'auteur de 13 livres, dont une monographie dans la prestigieuse collection Photopoche. Elle a été récompensée par les prix les plus importants. Ses images sont exposées dans le monde et figurent dans des collections publiques et privées. Elle a eu cette année une belle actualité, avec évidemment des expositions, un spectacle de théâtre qui met en scène ses photographies sur les femmes en prison. Et en ce moment, elle nous montre le quotidien de Daria, une femme ukrainienne qui, pour élever ses enfants correctement en Ukraine, est partie travailler en Italie. Cette série, cette histoire en photographie, est exposée depuis le 7 juin jusqu'au 31 août à Oulgat, tout près de Cabourg. Une belle destination pour un été en photographie.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Bonjour Jane Evelyn Atwood.
Bonjour Brigitte Patient.
Vous êtes à l'honneur dans le festival Les Femmes s'exposent à Oulgat, marraine de cette deuxième édition. Que montrez-vous alors dans le festival Les Femmes s'exposent ?
Je montre un travail qui est totalement inconnu en France, à ma connaissance, parce que c'était quand même un livre qui était publié en Italie, il y a des années de ça, et qui est maintenant épuisé. C'était sur une femme qui s'appelle Daria. Et Daria était à l'époque badante. Et badante, c'est un mot italien qui ça veut dire caregiver.
Elle donne des soins.
Yeah. C'est une personne qui s'occupe des personnes âgées. Spécifiquement, et au lieu d'aller chez la personne, la badante va vivre avec la personne âgée dans l'appartement ou dans la maison. Les Italiens ne peuvent pas s'en passer de ces badantes. Ça existe depuis très 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 longtemps maintenant, beaucoup d'années. Avant, c'était des Marocaines, si je ne me trompe pas, et depuis plusieurs années maintenant, ce sont des Ukrainiennes. Et ce qu'une Ukrainienne gagne en tant que badante peut faire exister toute une famille pendant plusieurs mois en Ukraine.
En Ukraine, oui.
Donc, il y a des milliers, littéralement des milliers de Ukrainiennes qui vont en Italie et qui travaillent en tant que badante et qui envoient tout l'argent à leur famille en Ukraine.
On dirait auxiliaires de vie, mais en même temps, les auxiliaires de vie ne restent pas la nuit et jour avec les personnes qu'elles soignent.
Oui, et c'est pas toujours les personnes âgées.
Absolument.
Et ça, c'est vraiment... Et aussi, la chose qui est intéressante, c'est que c'est un phénomène femme. Ces femmes renvoient tout l'argent en Ukraine et c'est elles qui travaillent. Et à l'époque, quand j'ai fait le travail, je pense que c'était 2005, il n'y avait pas de règlement. Donc, les badantes étaient payées à la merci de la famille qui les a embauchées. Et des fois, c'était très abusif. Le salaire pouvait être très, très petit. Daria, c'était un cas tout à fait exceptionnel parce qu'elle n'avait pas une personne âgée, mais quatre.
Dans la même maison?
Quatre sorelles, dans le même appartement.
Quatre sœurs?
Quatre sœurs. Et les quatre sœurs étaient très gravement malades. Je parle de Parkinson, je parle d'Alzheimer, je parle des cancers du sein. Il y en avait qui ne pouvaient plus marcher, il y en avait qui ne pouvaient pas se nourrir toute seule. Et Daria était censée de faire tout. Le médical, les soins, de faire les courses, préparer tous les repas sauf une qui était livrée, de habiller et faire la toilette de chaque femme. Ça commençait à 8h du matin. Une, deux, trois et quatre.
Mon
On
Dieu.
Arrive à midi, c'est l'heure de déjeuner et ça commence avec le déjeuner, avec le nourrir à la petite cuillère. C'était absolument hallucinant. Et finalement, les 2h de l'après-midi que Daria avait libre, qu'est-ce qu'elle faisait? Au lieu de reposer, elle était allée chez quelqu'un d'autre une femme riche pour travailler au Black, pour envoyer encore plus d'argent à son mari et ses deux filles qui restaient en Ukraine.
Et donc vous, vous étiez toute la journée auprès de Daria, vous?
Toute la journée. J'ai demandé d'être logée là-bas, mais il n'y avait pas de place. Même Daria n'avait pas sa propre chambre. Elle se couchait dans le salon sur un divan qui s'est déplié. Et les quatre femmes, il y avait deux femmes qui partageaient un lit, il y avait une autre femme qui avait sa chambre, et une autre qui était des va-et-vient avec l'hôpital tout le temps, parce qu'elle était le plus gravement malade. Et même quand celle-là était à l'hôpital, Daria était censée d'aller à l'hôpital et le nourrir à l'hôpital.
Waouh, effectivement.
Et donc, après une semaine dans cet appartement qui était absolument extraordinaire, bien sûr, je travaille avec un interprète parce que je ne parle pas ukrainienne, je ne parle malheureusement pas italien, mais il y avait une jeune femme qui était adorable, qui travaillait pour nous et qui traduisait. Donc, tous les deux, on était là avec Daria, avec les quatre sorelles là, et on a fait toute la journée jusqu'à le tomber de la nuit. Et après une semaine comme ça, je suis partie avec Daria en petit car. C'était le réseau ukrainien. Pour aller en Ukraine, 38 heures de voyage
en car,
une petite car, avec quelques badati et beaucoup de possessions qu'elles envoient chez leur famille là-bas, et Daria, bien sûr. Et j'ai passé une semaine en Ukraine, dans le petit village d'où vient Badante, avec son mari et ses deux filles.
Pourquoi dites-vous, enfin vous venez un peu d'en parler, mais que c'est une des plus belles commandes photographiques?
Parce que j'avais carte blanche. Il m'a laissé faire ce que j'ai voulu faire. J'avais un vrai sujet. Daria était extraordinaire. Je me souviens, au début, il me proposait deux Badante. Une qui avait une personne âgée et Daria qui avait quatre. Et alors, quand j'ai vu qu'elle avait quatre, et je me suis dit, mais il faut pas,
choisir Daria.
Rater quatre, c'est pas possible. Et après, quand je l'ai vue, j'ai vu qu'on a vraiment fait le bon choix.
Mm-hmm. Et vous avez encore des nouvelles d'elle?
J'ai eu des nouvelles pendant très longtemps. J'ai eu des nouvelles jusqu'à la dernière femme était décédée. Et après, je l'ai perdue de vue. J'ai pu téléphoner à son voisin en dessous, qui parlait français, et il m'a donné des nouvelles. Mais les dernières nouvelles que j'ai eues, qui étaient déjà des années, je savais qu'elle était très contente parce qu'une de ses filles allait se marier.
Et ce sont, je ne l'ai pas dit peut-être, ce sont des photos, évidemment ou non, en noir et blanc?
Complètement en noir et blanc, mm-hmm. Oui. Et il y a la première partie qui est en Italie, et la deuxième partie qui est en Ukraine, et il y a quelques photos dans le car, qui nous montre en train de traverser tous ces autres pays pour arriver...
Mais vous vivez toujours des aventures exceptionnelles. Là, par exemple, ça semble pas très important, mais l'idée d'être combien d'heures dans le car?
38 heures. À un moment donné, je me suis dit, Jane, tu es beaucoup trop âgée pour faire ça. Et quand j'ai descendu du car, je pouvais presque pas déplier mes jambes. Mais c'était une aventure et c'était une grande expérience parce que j'ai fait des photos dans le car et de la fenêtre, de la vitrine de la car. Et de Daria, par exemple, qui mettait le rouge à lèvres quand elle approchait le village et elle savait qu'elle allait voir son mari. Tout ça.
Et maintenant, Daria est à Ulgat, grâce à vous.
Oui, maintenant elle est à Ulgat.
Dans le festival Les Femmes s'exposent.
On you, it's hard, I know. I'm much that you can do.
Une balade très douce de Norah Jones, Wintertime, sur son dernier album.
Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
En 1989, Genevieve Atwood, les femmes en prison ne font pas la une des journaux. Or, vous commencez à travailler sur ce sujet et vous le travaillez pendant 9 ans. Vous allez dans 40 prisons dans le monde, en France, 2 prisons en Russie, en Europe de l'Est, puis aux États-Unis où vous allez dans le couloir de la mort. Et au bout de ces 9 ans, vous passez une autre année à créer le livre qui s'appelle « Too Much Time, femme en prison » avec des photos et des récits. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie dans ce long voyage dans les prisons dans le monde ?
Je suis fascinée, j'étais fascinée depuis le début, des mondes clos. La prison représente le monde clos le plus extrême qui existe, pour moi en tout cas. Et en plus, c'est l'être humain qui a inventé cette idée de créer un monde clos qui est pour les gens qui ne peut pas être avec le reste de nous. Et c'est ça qui m'a intrigué, c'est ça qui m'a interrogé. Et c'est pour ça que toute ma vie de photographe, j'ai toujours voulu faire les prisons. Mm-hmm. Et j'avais fait plusieurs demandes en France, parce que l'idée au début, c'était de faire que la France, parce que j'habite ici. Et toutes ces demandes étaient refusées. Et finalement, c'est grâce à une petite commande que j'ai eu le pied à l'intérieur d'une prison pour la première fois.
Alors, comment vous avez travaillé après avoir eu toutes les autorisations pour entrer dans ce monde clos, justement? Combien de temps vous restiez dans un lieu? Est-ce que vous dormiez là-bas? Est-ce que vous repartiez le soir? Comment ça se passait? Assez pratiquement, finalement, ma question est assez basique.
J'ai toujours demandé 7 jours dans chaque établissement. Et la raison que j'ai demandé 7 jours, c'est parce qu'ils essaient souvent d'éliminer le week-end, mais le week-end en prison, il y a des choses qui arrivent. Aussi, je n'ai pas demandé les prisonnières politiques ni les terroristes. Ça a éliminé beaucoup, beaucoup de prisonnières.
Et
pas
pourquoi?
Parce que je ne voulais pas les voir, j'aurais adoré les voir, mais je savais que ça rendrait encore plus difficile l'accès.
Donc c'était des prisonnières de droit commun?
De droit commun, des meurtrières, des cartes de crédit, des fraudes, beaucoup de drogue, toutes ces choses-là.
Et j'imagine que les rencontres avec ces personnes en situation de détention commençaient par la parole plutôt que par la photographie.
Oui, toujours par la parole. Beaucoup de questions de leur part quand je les ai encouragé de me poser des questions. J'ai expliqué le livre que j'ai voulu faire. Il y avait qui voulait immédiatement dire non. Il y en a d'autres qui posaient plus de questions. Des fois, ils disaient non ou oui après. Et des fois, tout de suite, ils disaient oui. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde voulait être photographié parce qu'ils sont beaucoup plus exhibitionnistes que les femmes en Europe, en général, je dirais. Il y avait toutes sortes de cas de figure.
Est-ce que parfois, y a-t-il eu une photo absolument impossible à faire pour vous alors que la femme qui était devant vous était plutôt volontaire?
Ah oui, I mean, par exemple, la femme qui accouche menottée, ça c'est, vous pouvez pas faire ça ici. Je l'ai fait aux États-Unis.
Bien sûr, et c'est une photo hyper importante puisque
c'est peut-être le plus important.
Elle a été prise pour la campagne d'Amnesty International,
voilà.
C'est ça?
Aux États-Unis, pendant 3 ans, ils ont fait une campagne contre cette pratique de menotter et enchaîner aux pieds les femmes au travail qui accouchent. Les femmes détenues, j'entends. Il y a toujours des moments où c'est très difficile de faire certaines photos. J'utilise depuis très longtemps mes instincts. Si je suis pas confortable en faisant la photo, je le fais pas. Et je dois dire, j'ai jamais regretté cette décision. Il y avait la femme en prison qui avait étranglé ses 2 enfants. Ça, c'était peut-être une des choses les plus dures que j'ai vues dans ma vie. Dans ma vie de femme et ma vie de photographe. J'ai pas d'enfants moi-même. Comment c'est possible qu'une femme peut tuer ses enfants? Mais il y en a en prison. Dans toutes les prisons où je suis passée, il y avait 1 ou 2 femmes qui ont fait ça. Et ces femmes me évitaient à rester en cellule. Elles partaient même pas aux promenades quand j'étais à l'intérieur de la prison. Elles avaient trop honte. Mais dans cette maison d'arrêt, cette femme m'a sollicité de venir en cellule et le prendre en photo. Et alors, elle tenait à la main une snapshot des 2 petits-enfants qu'elle avait étranglés. Et je savais que c'était la photo. Ça, c'était la photo. La mère qui tenait à la main ses enfants en photo et que c'est elle qui les avait étranglés. Et j'arrivais pas à faire la photo. Et je me suis dit, mais c'est grotesque cette situation. Qui va écrire l'autorisation? Parce que la personne qui les a tués et la personne qui doit écrire l'autorisation, hein, tout ça, c'était des questions dans ma tête. Et au fait, j'ai pas fait la photo. Mm-hmm. Et au fait, j'ai fait la photo de la femme assise dans une énorme dépression, la tête baissée et un peu dans le noir. Et c'est ça la photo qui est dans mon livre. C'est la légende qui raconte l'histoire.
Voilà, parce qu'il y a à chaque fois des écrits. Hein,
ouais.
Vous resituez l'histoire.
Et après ça, j'ai eu de nouvelles d'une visiteuse des prisons qui a connu cette femme bien parce qu'elle a visité avec elle les dernières 2 années de sa vie. Parce que cette pauvre femme, quand elle était transférée dans une autre prison, elle s'est pendue dans les toilettes. Mmh.
Jane Evelyn, j'ai proposé une photo de cette série sur la prison à une voix de France Inter. Il s'appelle Nicolas Stoufflet, il anime le jeu des 1000 euros, si vous écoutez France Inter. Il ne sait rien, sachez-le, il ne sait rien de cette photo. Il ne sait pas que vous êtes l'auteur, il ne sait pas dans quelle série elle se situe. Il la prend et il la regarde écouter.
C'est une photo en noir et blanc, photo d'un couple qui s'embrasse visiblement devant une petite fenêtre. On peut imaginer, j'allais dire que c'était dans un escalier, mais non, c'est pas sur le palier d'un escalier, c'est devant une petite fenêtre d'un immeuble qui semble simple. On peut peut-être imaginer que c'est une photo, je dirais des années 50, mais peut-être que c'est une photo complètement contemporaine, mais dans l'esprit de ces années-là, années 50-60. Ce couple est en train de s'enlacer et de s'embrasser. Et quand je dis s'enlacer, c'est ce couple a une façon de s'enlacer un peu particulière puisque la femme a les mains derrière le dos et l'homme entoure sa taille et prend les mains de la femme qui sont derrière son dos. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est une façon de s'embrasser originale. mais qui montre une fusion, un amour intense. C'est un baiser qu'on ne voit pas d'ailleurs, puisque les visages sont contenus de l'angle de la photo. On ne voit qu'une partie des visages et on ne voit pas les lèvres les unes contre les autres. On peut néanmoins imaginer que c'est un baiser langoureux, un vrai baiser amoureux. Derrière cette petite fenêtre devant laquelle ils s'embrassent, on peut imaginer l'intérieur d'une cour, ou plutôt une cour intérieure, qui elle-même donne sur une autre petite fenêtre qui se trouve en face. Et derrière la fenêtre d'en face, je vois une lumière. Quelque chose qui attire l'œil. Alors on est dans un premier temps attiré par le couple, bien sûr, par cette passion, par cette façon de se tenir les mains, et puis tout de suite après, quand on monte un peu les yeux, on voit au loin cette lumière qui est presque éblouissante, d'ailleurs, bien qu'en noir et blanc. C'est le point le plus lumineux de la photo, même si c'est le couple qui est quand même lumineux avant tout. Je vois une croix, mais en fait la croix, non, c'est simplement la croix formée par une des barres, un des barreaux peut-être de la fenêtre derrière. Et c'est je dirais que ça peut être un genre de néon, un éclairage néon derrière une fenêtre à barreaux. Voilà. Ah oui, comme quoi il faut regarder la photo longuement pour s'en imprégner. Ah, ça c'est magique. Parce que je vais peut-être dire une énormité, mais il se pourrait que ce soit une prison. Un couple qui s'embrasse en prison. C'est extrêmement émouvant.
Genevieve Atwood.
C'est merveilleux.
C'est émouvant.
Oh, c'est vraiment émouvant, je suis très émue. Et en plus, il a une très belle voix.
Eh oui.
Il a une très très belle voix.
C'est Nicolas Stoufflet. Et vraiment, il a découvert cette photo avec une...
Ça m'a fait pleurer. Il a bien regardé, mais c'était peu à peu jusqu'il arrive au barreau.
C'est ça.
Tout ce qu'il a dit, ça m'a fait sourire. En route, parce que quand il parlait de la lumière qui est trop éblouissante, j'ai tiré moi-même dans mon laboratoire cette photo des centaines de fois. C'est une horreur à tirer à cause de cette néon.
Oui.
Il faut faire venir le néon et après il faut pas perdre les mains parce que les mains deviennent un peu trop sombres et il faut mettre de la lumière sur les mains aussi. Donc tout ça, il a parlé sans savoir qu'il parlait de ça.
Exactement, oui. Et il parle de ce couple lumineux, de cette lumière qui est lumineuse.
Ouais.
C'est impressionnant. Hein.
Et aussi la passion du couple, parce que ce couple était vraiment très amoureux. Et l'homme, qui est le mari de la femme, était incarcéré quartier homme et la femme quartier femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en prison?
Je ne sais pas.
Ce sont des pauvres gens. Quand j'ai demandé qu'ils signent l'autorisation, ils ont fait une cercle avec le stylo sur le papier. Ni l'un ni l'autre savaient lire ni écrire. C'est des pauvres gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Ils ont volé une peinture d'un musée.
Une peinture dans un musée.
Voilà. Mmh. Ils avaient faim.
Et ils sont au parloir.
Au parloir, voilà.
Et c'est en France?
C'est en France. Mais il y a beaucoup de gens comme ça en prison et les questions se posent, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des gens comme ça en prison? Mm-hmm. On doit les éduquer, on doit les soigner au lieu de les enfermer et les oublier.
C'est incroyable ce travail, il a commencé, je l'ai dit, en 1989. Mm-hmm. Il est aujourd'hui d'une actualité, je pense qu'il sera toujours d'actualité, malheureusement.
Malheureusement, bien malheureusement.
Mm-hmm. Il y a un spectacle qui a été créé par la metteur en scène et comédienne Fatima Soualiamané, avec le titre « Too Much Time », qui est « Woman in Prison », qui est le titre du livre. Dans ce spectacle, il y a vos photos, il y a des vidéos de vous. Vous êtes en train de parler, de raconter, puis il y a les comédiennes. Quel rôle vous avez eu dans la création de cette pièce, Genevieve Atwood?
J'ai eu un rôle très important, mais je dois dire que c'est Fatima qui a conçu de A à Z cette pièce. On a une tendance, quand on parle de cette pièce, de parler toujours de moi et mes photos. Et je voudrais bien qu'on parle un peu de Fatima, parce que c'est quand même son invention. Elle était très intelligente, elle a eu l'idée de m'inclure dans la pièce. Elle a vu tout ce qui est... Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les prisons actuellement. Et elle a compris que ça serait différent si l'histoire est l'histoire de la photographe, moi en occurrence, qui fait cette aventure dans toutes ces prisons pendant ces 10 ans. Et donc, elle m'a inclus avec ma voix. Ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Ce que les actrices et l'acteur disent, parce qu'il y a 6 actrices et 1 acteur, sont ce que les détenus que j'ai enregistrés disent aussi dans le livre. Donc, tout est absolument véridique, rien est inventé, donc c'est une sorte de documentaire, mais c'est du théâtre, c'est du vrai théâtre, et c'est Fatima qui l'a créé. Elle venait chez moi, elle montrait sur le computer, on discutait, moi j'ai dit pas ça, ajoutez ceci, ajoutez cela, je pense que ça serait mieux de faire comme ci, comme ça, ou surtout pas ça, ou c'est génial, et on travaillait comme ça presque 2 ans et demi. Et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble.
De toute façon, d'une façon générale, Genevieve Atwood, vous essayez, j'espère que vous réussissez à maîtriser l'histoire de vos photographies. Quand vous avez travaillé, quand vous avez vécu, vous avez photographié pendant des mois, des années un sujet, quand les photos sont exposées, quand elles paraissent dans un livre, quand elles paraissent dans la presse, vous essayez de maîtriser la situation, non? Vous
oui.
avez envie que ce qui va paraître vous ressemble, enfin, ressemble à votre intention de départ.
Bon, ça, c'est déjà très, très important, parce que je suis l'auteur de mes photos. Mais encore plus, c'est l'importance aux gens que j'ai photographiés. Il faut absolument pas trahir ces gens. C'est moi qui les a demandé, est-ce que je peux vous prendre en photo? Elles ont confiance en moi. Elles ont confiance en ce que je vais faire avec ces photos. Alors, je peux pas faire n'importe quoi avec ces photos. Mais les gens pensent que je suis très control freak et que j'essaie de contrôler tout. C'est pas ça. J'essaie que
normal,
le travail.
Non?
Yeah, mais c'est pas un contrôle gratuit. C'est de ne pas dénaturer un travail qui était déjà fait. Hein? Et ça, c'est la différence. C'est pas contrôler pour contrôler.
Bien sûr que non.
C'est contrôler pour protéger. Voilà.
On va contrôler le temps sur France Inter cet après-midi.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change de cœur.
Je m'ennuie vite.
Regarde, allez, regarde-moi.
Clara Luciani qui va ainsi de la scène à la vie quotidienne avec ce titre « Nu ».
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Geneviève Atwood, je voudrais savoir quand est-ce que vous avez fait votre toute première photographie. Peut-être c'était aux États-Unis avant votre arrivée en France, avec un appareil, joué ou au hasard d'une réunion de famille.
Ou... Oui, sans doute des snapshots que j'ai fait sans savoir que c'était plus que ça. Hein. Mais en fait, j'étais déjà probablement fascinée par l'image.
Et votre école de la photographie, je sais où elle était au 19 rue des Lombards à Paris.
Exactement.
Alors racontez-nous cette école un peu particulière.
C'était un bordel. C'était une maison de passe.
Oui.
Et quand j'ai commencé la photo avec l'idée de faire des photos un peu plus sérieusement, j'avais acheté une Nikkormat et je cherchais, parce que j'avais vu l'exposition de Diane Arbus aux États-Unis et j'ai jamais oublié les gens dans ces photos. Et parce que j'étais jeune et naïve et probablement un peu bête, j'ai voulu copier Diane Arbus et je me suis dit comment je vais trouver les gens comme elle à photographier. Et j'ai commencé à aller dans les vernissages à Paris. Dans les années 70, c'était tous les mardis soirs, c'était ouvert au public et c'était peinture, sculpture, mais il y avait très, très peu de photographies, ça n'existait pas encore.
Mais vous étiez dans ce milieu pour aller dans les vernissages à cette époque-là?
Non, j'étais pas du tout dans ce milieu. J'étais très névrosée, très timide, très effacée moi-même et je suis allée parce qu'on pouvait aller sans être invitée avec mon appareil et je cherchais des gens qui pouvaient être intéressants pour moi. Et j'ai tombé sur beaucoup de gens totalement ennuyeux. Mais j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée. Et quand elle m'a dit ça, j'avais vu les femmes prostituées dans la rue qui chuchotaient aux hommes qui passaient dans leur fourrure, dans leurs bijoux, dans leur maquillage. C'était un peu comme être dans les parages d'un théâtre, assez près pour toucher la magie. C'était un peu comme ça. Et donc j'ai dit, mais ramène-moi à rencontrer cette prostituée. Et tout de suite, le soir même, on est allé 19 rue des Lombards. Et j'ai rencontré Blondine.
Ah, c'était elle, immédiatement?
Immédiatement, oui.
C'est incroyable.
Incroyable.
Et juste parce que, comment on est à la radio, juste, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Blondine, physiquement?
Oh là là. À l'époque, elle était très très belle. Elle avait la tête complètement rasée, mais blonde. Les peu de cheveux qui étaient là, elle était... Elle était blonde, blonde. Elle avait des grands yeux. Elle fumait sans arrêt, toujours la clope. Elle avait une énorme poitrine. J'ai écrit dans le texte une poitrine si généreuse que tu avais envie de plonger dedans. Mm-hmm. Et elle était assez courte, elle n'était pas une grande femme. Elle était souvent habillée en mazo, parce qu'elle faisait des clients mazo.
Parce que c'était l'immeuble, hein, non, mazo?
L'immeuble, c'était un immeuble pour les clients masochistes.
Oui.
Mais moi, j'ai mis du temps pour comprendre que c'était ça, parce que les femmes ne voulaient pas parler à moi de la nature de leur travail, comme si elles me protégeaient de ça. Elles étaient très bourgeoises, ces femmes. Il n'y avait pas de drogue, évidemment, il n'y avait pas de sida. Elle votait la plupart à droite, sauf Blondine qui votait tous les ans pour Arlette Laguiller. Blondine était remarquable de tout point de vue. Elle n'avait pas une proxénète. Tous les autres dans l'immeuble avaient des proxénètes. Et Blondine était trop outrageuse pour pouvoir être contrôlée par qui que ce soit. Et finalement, les deux ou trois proxénètes qui avaient commencé à travailler avec elle l'a laissé tomber parce que ça valait pas le coup. Bien qu'elle était ce qu'on appelait une gagneuse, parce qu'elle gagnait énormément d'argent. C'était une très, très bonne prostituée. Elle contrôlait tout. Elle savait satisfaire, dans le vrai sens du terme, ces hommes qui venaient prêts à dépenser un fric fou, des fois, pour avoir leurs besoins nourris.
Assouvis.
Oui, parce que c'était quelque chose qu'ils avaient besoin, dont ils avaient besoin. Ils comprenaient même pas eux-mêmes pourquoi c'était vital. Et Blondine était là pour faire ce travail-là.
Et vous étiez là pour faire des photographies. Comment ces hommes, par exemple, le plus souvent des hommes riches, acceptaient votre présence? Vous voyaient-ils d'ailleurs? Ou alors est-ce qu'avec Blondine, vous jouiez de votre complicité pour que vous puissiez prendre les photos sans qu'ils s'en aperçoivent?
Eh bien, ça marchait des deux manières que vous parlez là. Parce que j'étais là assise dans l'escalier avec Blondine, j'étais dans la rue. Les clients m'ont vu, j'étais pas cachée de tout. Mais quand j'ai monté pour photographier des clients, et ça m'est arrivé seulement deux fois, je pense, la première fois, ça marchait très bien pour moi parce que Blondine, tout d'un coup, a mis une cagoule sur la tête du client. Donc, il ne me voyait pas. Moi, je voyais dans le miroir d'où j'étais, caché dans la salle de bain, parce qu'une fois que j'entrais dans le studio, j'ai pas allé jusque dans le studio parce que j'avais tellement peur que je me suis éclipsée dans la petite salle de bain à côté. Mais je pouvais voir le miroir sur le mur et j'ai vu cette scène absolument, une scène de Jean Genet dans cette miroir avec ses clients à genoux, avec une chaîne autour de son corps nu et sa tête cagoulée. Et Blondine au-dessus de lui qui lui a fait une litanie de choses pour lui exciter sexuellement et pour le contrôler. Et là, je sortais et j'ai fait ma photo.
Quand vous dites que vous étiez à cette époque-là timide, réservé, là vous prouvez quand même le contraire. Vous deviez avoir un petit grain de folie, non?
J'ai eu un très gros grain de folie.
Pour aller dans ces théâtres-là.
Je suis très contente d'avoir ce grain de folie. Et la chose, c'était que ce grain de folie, pour moi, c'était un grain de folie qui aurait pu me tuer. Mais bien que je me suis identifiée avec Diane Arbus pendant très longtemps, je faisais au même moment une psychanalyse. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie, parce que je ne me suis pas suicidée. C'est ça qui m'a débloqué ma créativité et qui m'a offert la photographie. Et c'est tout ça qui a fait qui je suis aujourd'hui.
Bien sûr, vous en parlez beaucoup d'ailleurs dans le livre qui est paru, un entretien avec Christine Delory Monberger.
Voilà.
Vous parlez beaucoup de cette période-là, vous étiez en psychanalyse. Alors écoutez, pour préparer l'émission, j'ai fait un bel exercice. J'ai pris le livre Rue des Lombards, qui est paru chez Xavier Barral, et j'ai essayé de retrouver une photo guidée par votre voix, Jane Evelyn, en 1995, et celle de Willy Ronis.
Là, cette photo, c'est peut-être celle qui, pour moi, pose un problème, parce que on voit au premier plan, il y a deux personnages de buste en buste, la prostituée à la poitrine généreuse, au premier plan, qui tient une cigarette, et derrière elle, comme lui parlant à l'oreille, un monsieur d'âge très mûr avec lunettes métalliques. Et là, le problème que j'évoquais, c'est comment as-tu pu avoir l'autorisation venant de cet homme de le photographier avec la femme?
Je ne l'ai pas eu.
Tu ne l'as pas eu?
Non.
Tu l'as fait comme ça? Il ne s'est pas rendu compte?
Il s'est rendu compte, ouais. Mais j'étais très naïf, j'avais un seul appareil, et j'étais toujours là, dans l'escalier.
Oui, autrement dit, il te voyait.
Il me voyait, mais bien sûr, j'étais assise à côté d'elle. Ouais. C'était fait avec un 50 mm, je crois. J'avais 50 et 35 mm, c'est tout à l'époque.
Ça, c'est le 50, ça.
Et alors, lui, c'était un habitué.
Ah oui, hein? Oui, alors il n'était peut-être pas tellement gêné.
Il n'était pas gêné, mais il n'était pas menacé par ma présence. Je faisais partie du décor.
C'est ça.
Mais après, le problème de l'utilisation d'image.
Ah, là, oui.
Hein? Alors, peu de temps après ça, c'est la vérité, c'est un peu terrible, mais il est mort, ce monsieur, d'une crise cardiaque.
Oui, oui.
Et alors, moi, je me suis renseignée d'après la prostituée sur son histoire, d'où il venait, etc. Oui. Et selon elle, il n'avait personne, il était toujours dans le quartier. Il venait toujours chez les prostituées. Alors, j'ai pris le risque d'utiliser cette photo dans le livre.
Oui.
Mais je ne la passe jamais à la télévision.
C'est ça, oui.
Et ni dans la presse.
C'était en janvier 1995, Jane Evelyn Atwood avec Willy Ronis sur France Culture, dans Le Bon Plaisir. Vous vous souvenez de ce moment-là avec Willy Ronis?
Oh là là, Willy et moi, on était très très amis et on discutait beaucoup de nos photos. Et je me souviens d'avoir eu une conversation avec lui à propos de cette photo. Mais aussi, le fait que ses lunettes tombent juste sur les yeux, souvent quand j'expose cette photo, quand je fais faire le tirage, je vais accentuer la ligne des lunettes. Et cette ligne de lunettes va faire en sorte que c'est comme la ligne qu'on met à travers les yeux pour cacher l'identité de la personne.
Un bandeau.
Oui, comme un bandeau, mais c'est pas un bandeau, ce sont des lunettes.
Mais c'est vrai que je l'ai devant moi, la photo, parce qu'elle est dans le livre. J'allais vous dire, mais je vous laissais écouter la voix de Willy Ronis, on ne le reconnaît pas vraiment quand même.
Non.
Bon, c'est une question. Le droit à l'image, c'est un vrai souci pour.
C'est un vrai souci et c'était encore un vrai souci il y a quelques années, beaucoup pire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des procès. Et moi, je pense vraiment que si on dit oui, vous pouvez faire un procès, mais pas pour l'argent. Vous pouvez demander qu'on n'utilise plus la photo et ça s'arrête là. Si vous gagnez le procès, on essaye de ne plus utiliser la photo. Mais s'il peut gagner 300 000 euros pour faire un procès, évidemment, beaucoup de gens font des procès à cause du fric, c'est
tout. Bien sûr, oui. Alors là, on est dans la rue des Lombards. Il y a un autre travail sur la prostitution. On a l'impression que c'est pas la même histoire, la rue des Lombards et Pigalle. C'est les années qui suivent la rue des Lombards. Pigalle, c'est à quel moment? C'est en
78-79.
Alors que la rue des Lombards, c'est 76-77.
Exactement.
Comment vous êtes allé de la rue des Lombards à Pigalle? C'est d'avoir vécu avec Blondine ces années-là qui vous a donné envie d'aller vers les trans?
J'avais pas envie. Au fait, c'est Blondine qui avait travaillé avec Barbara, qui est une blonde trans qui est dans le livre. Elle a travaillé longtemps avec Barbara à un moment donné, en tapinant, hein. Elles étaient toutes les deux prostituées dans un autre endroit. Et elle m'a parlé beaucoup de Barbara. Elle a dit, oh, tu vas l'adorer. Il faut absolument que tu ailles la voir. Dis bonjour de ma part, etc. Et donc, je suis allée et tout de suite, j'étais acceptée. Je les ai trouvées aussi très intéressants et j'ai commencé à faire des photos.
Mais vous êtes-vous attachée à un personnage en particulier, comme vous l'étiez à Blondine?
C'était pas pareil, parce que d'abord, elles étaient très droguées, héroïnes. Je parle de la drogue dure. Ça changeait tout. Hein? Mm-hmm. Il n'y avait pas la même solidarité qu'on trouvait rue des Lombards, je dirais comme ça, plus en général. C'était pas un travail de nuit, parce qu'elles étaient à la messe la nuit. Je travaillais dans la journée. J'ai fait deux très très bonnes amies, mais je dirais pas quand même si profondes qu'avec Blondine. Deux trans, celle que j'appelle Nuja et à qui j'ai dédicacé le livre Pigalle People. Ingrid aussi, la nue, on était très proches. Valérie, qui se trouve sur la couverture et aussi à l'intérieur, on était assez proches. Et Miranda, qui est malheureusement aussi, elle est morte juste avant que le livre ait été publié.
Il y a beaucoup de disparitions hein, dans vos travaux photographiques. Vous passez du temps, beaucoup de vie avec des gens qui ne sont plus là.
C'est vrai et c'est le prix à payer quand on choisit des sujets comme ça où les gens sont très fragiles, au fait, et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et ils ne vivent pas très longtemps. Mm-hmm. Une chose extraordinaire m'est arrivée avec Valérie, qui se trouve sur la couverture, et une femme m'a écrit un email disant « J'ai vu la photo en Télérama et des deux femmes à Pigalle, et je crois pouvoir reconnaître la femme de droite. Je reconnais ses mains, je reconnais son écharpe, je reconnais ses bijoux, je pense que c'est ma tante. » Et elle m'a donné le nom de famille quand Valérie était un homme et j'ai cherché dans mon paquet d'autorisation de 1979 et j'ai trouvé le nom. Et c'était bien et belle sa tante. Et je lui ai écrit et j'ai dit, c'est votre tante et en plus votre tante est sur le couve, je vous envoie le livre. Finalement, j'ai établi une correspondance avec cette nièce.
Oui.
Et il y a une semaine seulement, je suis allée avec mon copain Sylvain pour le rencontrer parce qu'elle habite en Bretagne. Et à cause de cette nièce, je me sens pas comme si tous ces personnages sont morts. Parce qu'elle a pris la place de sa tante dans ma tête, en quelque sorte. Elle adore le livre. C'est une femme vraiment bien. Sa famille était très ouverte. C'est pas la famille qui a viré Valérie. C'est Valérie de son propre gré qui est partie parce qu'elle était habillée en femme déjà très jeune et les gens commençaient à se moquer d'elle et elle voulait pas que sa famille ait des problèmes. Mais quand elle était morte, quand elle est décédée, Valérie, malheureusement, elle est décédée du sida. Son frère, le père de la nièce, était avec elle à ses côtés. Et en plus, elle était enterrée dans le tombeau familial avec son nom de femme, Valérie, gravé sur le tombe. Et à une époque où les transgendres n'étaient pas vraiment compris, encore pire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très compris non plus, mais c'est un tout petit peu mieux, cette famille a accepté cette personne et aimé profondément cette personne.
En ce moment, vous travaillez sur un sujet, vous n'allez pas vouloir me dire lequel, évidemment, je suppose, comme à chaque fois que je vous le demande, entre deux grandes séries. Là, vous êtes entre quelle et quelle série, finalement? Votre dernière série, qu'est-ce que c'était, votre dernier travail?
J'ai fait Haïti.
Haïti.
Et maintenant, depuis 4 ans, je travaille sur un autre sujet qui est presque fini. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est diamétriquement opposé à tout ce que j'ai fait jusqu'ici.
Ce sont des photos de paysages.
Peut-être des fleurs.
Peut-être en Corse.
Ah oui, peut-être, on ne sait pas. Mais je ne vais pas vous dire parce que je n'aime pas parler de mes sujets.
Quand est-ce qu'il sortira ce sujet, enfin, qu'on pourra le voir?
Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2. J'espère pas plus longtemps que ça.
Bon, alors on se reverra, Geneviève Linatou.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Merci à vous, Brigitte. Merci.
Si vous allez sur la page Regardez voir avec franceinter.fr, vous trouvez les liens pour suivre l'actualité de Geneviève Linatou, de ses livres et les photos dont on a parlé cet après-midi. Et bien sûr, le podcast pour écouter cette émission à votre guise. Regardez voir est réalisé par Marco Mutel, attaché de production Thomas Lehété, la programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Michel Bézikian. Juste après les informations, c'est le feuilleton des médias francophones publics de l'aube à l'aube Bachung. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h sur France Inter avec Regardez voir et une photo mythique, une émission en partenariat avec Fisheye. C'est la photo de John Lennon, nu, enveloppant de son corps Yoko Ono. Vous découvrirez l'histoire de cette photographie signée Annie Leibovitz, prise le 8 décembre 1980, quelques heures avant la mort de John Lennon.
C'était Regardez voir, merci à Brigitte Patient que l'on retrouvera bien sûr demain.